Bonjour à tous. Je salue mes collègues dans le ministère. Peut-être qu'il y en a d'autres au milieu de nous. Que le Seigneur nous fasse du bien. Je ne suis pas un orateur, mais je sais partager les richesses des promesses de l'Écriture. Et le Seigneur fait du bien par sa parole. Je ne suis pas, je l'ai dit hier soir, un psychologue, je ne suis pas un médecin, mais le cheminement, l'écoute, mes propres expériences m'ont amené à réfléchir sur différents sujets que je partage. Hier soir, nous avons parlé du stress. Ce matin, nous allons parler de l'angoisse, un niveau encore plus sérieux. Cet après-midi, nous allons parler de la dépression, puis un aspect plus particulier, demain soir, la solitude. Et nous finirons par, mardi soir, parler de cette perte d'identité. Ne plus se reconnaître, ne plus s'aimer. Voilà un petit peu le programme. Je m'efforcerai. Non. De temps en temps, avoir une pointe d'humour, je ne m'efforcerai pas. Parce qu'il est important que pour les sujets les plus sérieux, nous puissions comprendre que le Seigneur veut réaliser des promesses dans nos vies. Je dirais aussi, pour introduire notre matinée, que nous avons tous besoin d'être aidés. Dieu soit béni pour les ministères. Et quand je dis les ministères qu'il a donnés pour former l'Église, Dieu soit béni pour les ministères locaux, les anciens. Dieu soit béni pour le travail des diacres, des diaconesses, qui, sur le terrain, amène un travail extraordinaire d'accompagnement et d'aide de ceux qui souffrent. Donc je parlerai de ceux qui souffrent et de ceux qui accompagnent dans la souffrance, deux aspects. Mais quel que soit notre cheminement, nous ne sommes pas des magiciens. Et chacun doit devenir acteur de sa victoire. Nous ne faisons pas à la place d'eux. Il est important, même pour celui qui est dans le désespoir, qu'il y ait un pas. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Et il est important que nous nous attendions au Seigneur, oui, mais le Seigneur attend quelque chose de nous. Amen. Le préambule étant fait, j'aimerais qu'on voit le plan de ce que nous allons voir ce matin. D'abord, définir en quelques flashs ce qu'est l'angoisse, les symptômes, réactions. Vous voyez un petit dessin qui ressemble à une chicane ou un entonnoir. C'est tout simplement l'explication par un dessin. Conseils pratiques, j'aime bien m'arrêter sur quelques conseils pratiques afin que nous descendions de notre étage cérébral et que nous puissions agir avec nos sens. Et puis les promesses, la guérison et la conclusion. Le programme vous convient ? Oui, merci. Je ne vais pas vous dire que je suis angoissé de vous voir. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'ailleurs certains d'entre vous me l'ont rappelé, de me trouver près de 500 jeunes en Guadeloupe. J'étais le seul blanc. Je me sentais pâle. L'angoisse est l'ensemble de phénomènes psychophysiologiques et le corps, lié à une situation de doute, premier mot, doute ou de peur à l'égard d'un malheur imminent, réel ou imaginaire, mais dans le cadre d'une situation déstabilisante. Ça se manifeste par une oppression, je vous dis cela comme si vous n'étiez pas au courant, hein. Gêne respiratoire, effet étau, une anxiété, inquiétude, état de trouble psychique lié à l'appréhension, la crainte du mal, d'une menace, inquiétude métaphysique, spirituelle. Alors, métaphysique ou à dimension spirituelle, remise en cause, même remise en cause du Créateur. Est-ce possible pour des chrétiens? Ce n'est pas une remise en cause de sa foi, c'est trouble. Vous savez, celui qui est venu et qui a dit un jour, Dieu a-t-il réellement dit? Remise en cause des affirmations spirituelles. Du latin, passage resserré. C'est-à-dire, à un moment donné où je ne pourrais pas passer, je ne pourrais pas m'en sortir. Je n'en sortirai pas. Je ne peux plus, je ne peux pas. Où on semble que tout est bloqué. Alors ces mots qui sont forts, la peur, la crainte, le doute, le vide, la solitude, j'aimerais qu'on demande à quelqu'un de nous en parler, si vous le voulez bien. Je pense que le texte va apparaître, donc ça se situe dans Matthieu 26, 36. Ça se passe dans le jardin de Gethsémané. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Palestine, d'aller sur les terres où le Seigneur a cheminé. Je ne sais pas si c'est à cet endroit, mais ce lieu avec les oliviers rappelle des souvenirs. Et on essaie de se plonger dans le décor. Là, dans le jardin au milieu des oliviers, il nous est dit au verset 37, « Jésus commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. » Verset 38, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Verset 39, s'il est possible que cette coupe, vous ne savez pas ce que ça veut dire, le Seigneur lui le sait, vous ne savez pas, le ras-le-bol, la coupe pleine. Alors si je lis ce texte, ce n'est pas simplement pour dire, regardez ce que le Seigneur a fait. C'est pour vous dire ce matin, il est passé par là. Il a été tenté, c'est vrai, sans commettre le péché. Il a souffert, il a connu l'angoisse. Et c'est pour cela que ce matin, si moi je suis démuni devant certaines situations et que je ne sais que faire ou que dire, je sais que mon Seigneur peut comprendre chaque cœur. J'aimerais que vous le regardiez ce matin. Il est là dans le jardin de Gethsémané. Et Luc nous dit, étant en agonie, qui signifie petite mort, approche de la mort, il est en plein combat, la lutte. Je ne sais pas comment m'en sortir. Il luttait. À un tel point que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus comprend tes luttes. Il sait que c'est dur. Il connaît ton désespoir. Parce qu'il est passé par là. Et je dis cela parce que, autant pour le soignant que pour celui qui a besoin d'être soigné, nous avons besoin de cette fibre de miséricorde afin de ne pas approcher cette situation ou pour soi ou pour les autres avec légèreté. Comprendre la souffrance, le droit de souffrir. Jésus a connu la souffrance. Ne pas se culpabiliser, c'est ce pourtant ce qu'il arrive que trop souvent. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien dit? est-ce que j'ai pas commis une faute? Quand, en plus, quelqu'un, je suis tranquille, pas ici à Toulouse, a reçu un ministère particulier chez les chrétiens, qui est le ministère de l'achèvement. Quand quelqu'un est dans la souffrance, si tu avais la foi, tu as dû commettre quelque chose de grave pour en arriver là. Tu sais, tu aurais besoin de te tenir devant le Seigneur. Alors lisez ce que l'on dit des amis de Job. Seigneur, l'ennemi est l'accusateur des frères et je ne veux pas être de ce côté-là. Je veux que tu m'aides à avoir un regard de compassion et une parole qui guérit. Ça peut nous arriver. Jésus a été tenté, il a souffert, il peut compatir, il peut comprendre. Mais je sais aussi que mon Seigneur qui est passé par là a vaincu plus que la petite mort, la mort elle-même. Il a triomphé, vous le savez. Mais parfois c'est là. Et ça a besoin de venir là. Pour transmettre un message d'espoir, il est vivant, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il intercède pour toi. Et il te parle ce matin. Et là, quand je dis « il te parle », je me regarde. Et je te regarde. Nous avons tous besoin. Le châtiment qui devait tomber sur nous, il l'a porté. Et voici qu'il nous donne la paix. Seigneur, ce miracle-là, moi, je ne peux pas le faire. Je peux accompagner, je peux aider, je peux parfois donner quelques paroles à quelqu'un, mais combien je me sens démuni devant des situations complexes. Et je dis, Seigneur, donne-moi tes sentiments, donne-moi l'attitude, le regard. Et même, Seigneur, donne-moi la force de me taire quand je dois le faire. Pourvu que ton sentiment d'amour traverse le cœur et révèle le ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Et il triomphe par ses meurtrissures. Je peux être guéri. Et si je ne le suis pas physiquement, je le saurai. Je le saurai spirituellement. Je pèse ce que je viens de dire. Nous ne sommes pas des magiciens. Je crois que le Seigneur guérit. Mais il y a parfois des non-réponses. Mais je crois que le Seigneur donne toujours sa paix. L'angoisse se situe toujours au carrefour de la vie et du désespoir. Rappelez-vous le fils prodigue. C'était « Où je reste là et ma vision, ce sont les cochons. Pardonnez-moi. Où je me lève et je vais vers mon père. » Là, c'est l'abondance. Il y a des carrefours dans la vie. Et parfois, le Seigneur permet certaines situations que l'on ne comprend pas. Et nous, on arrive avec nos sacs de pourquoi. Mais le Seigneur permet des situations pour nous amener à dire maintenant, il faut faire le choix. Le Seigneur nous a parlé ce matin. On peut rester dans nos amertumes, nos aigreurs. Puis on peut en sortir. Et il y a parfois de ces obstacles qui sont là et qui nous empêchent de remporter des victoires. Et il n'est pas question que le Seigneur nous abandonne, il n'est pas question que le Seigneur nous oublie, mais simplement qu'il voudrait que nous comprenions qu'en tant qu'enfant de Dieu, la plus belle victoire, c'est celle qui se passe là-dedans. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va calmer votre état cérébral, parce que ça yoyote là-haut. Et votre cœur, le siège des sentiments, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. David a connu des angoisses à maintes reprises. Et souvent, j'essaie de regarder, mais c'est rarement au masculin, c'est toujours au pluriel. Il n'y en a pas assez qu'une, il faut qu'il y en ait plusieurs. Les angoisses. Paul, au travers des difficultés, va faire ce choix à ce carrefour. Parce que ce choix est important, c'est dans l'angoisse, la difficulté, la réaction nous amène à clarifier nos sentiments, à nous surpasser et à remporter victoire. Paul dit, non pas « j'ai jamais de problème », mais il dit dans 2 Corinthiens 4:8 « nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Parfois, avec un des éléments, c'est l'écroulement. Mais regardez la fidélité de Dieu. C'est vrai que nous pouvons traverser des moments difficiles. Et il ajoute, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et il dit, je ne vais pas dire avec le sourire, j'y étais pas. Mais nos légères afflictions du temps présent... Il y a le moral, hein. Nos légères afflictions du temps présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est-à-dire qu'il ne compare pas sa misère aux autres, elle est toujours plus grande. Vous n'avez pas vu les clubs de compétition de souffrance? Tu souffres? Ah, moi c'est pire que toi, j'ai les deux jambes. Toi, la tête aussi? Ah, moi je ne m'en rappelle plus. Non mais, la compétition des souffrances... Mais Paul, lui, il regarde ce poids éternel de gloire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Des fleuves de vie, d'eau vive, vont combler ce vide, ce creux. Je veux que mes brebis, dit Jésus, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On ne mesure pas toujours ces paroles du Seigneur. Mais ça veut dire que ce vide qui parfois est là à l'intérieur et qui, on peut l'amener, notre réservoir, notre sac vide. On est là à la réunion, alléluia, on chante les cantiques. Certaines, parfois, ils mettent toute l'atmosphère nécessaire pour chauffer. Mais quand c'est vide, c'est vide. Et il n'y a rien de pire que de venir vide et de repartir vide. Ça me fait du bien de venir aux réunions. Ah, j'ai entendu le Seigneur me parler ce matin. Eh bien, vous savez, c'est Jésus qui dit qu'on peut entendre la voix du Seigneur tous les dimanches. Vous savez que c'est marqué, ça? Oh, c'est ma traduction. Hein. Pas que M. Olé m'en veuille, mais j'ai une traduction spéciale. Quand il dit « Je me tiens à la porte, je parle ». Il dit, vous entendez ma voix, mais vous me laissez à la porte. C'est cela. Et il ajoute, si seulement vous ouvrez la porte, alors je vais rentrer. Je vais rentrer, je vais remplir votre vie. Il y aura une communion, je souperai avec vous et vous avec moi. Vous êtes là? Oui, le Seigneur m'a parlé, oui, mais le Seigneur m'a parlé. Mais ouvre-la la porte pour qu'il rentre et comble ta vie. Pardonnez-moi, mais nous connaissons parfois des textes bibliques. Nous avons la poignée, mais nous avons perdu la clé de la simplicité. Seigneur, tu as parlé ce matin. C'est pas ce midi, c'est pas ce soir, c'est maintenant que je te réponds. Ouvre, viens, change. Et c'est là où les phrases toutes faites ont besoin d'avoir une sérieuse correction. Je les appelle le tricotage affectif. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ah oui, ah bon. Ça s'appelle le patois de Canaan. Ça s'appelle la morale évangélique. Oui, j'ose le dire. Parfois, on a de ces phrases toutes faites. Et ce n'est pas parce que je mets une pièce de prière que le distributeur va me donner 10 versets bibliques. Nous ne sommes pas des répondeurs bibliques. Je crois que le Seigneur sait que nous sommes tous différents et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. J'ai cité ce texte de Proverbes, je pense qu'il est, on peut l'avoir, le texte des Proverbes, ouais. Non, on n'y est pas celui-là encore. Ce texte des Proverbes 18-14 qui dit « Un bon moral permet, version Sommeur, un bon moral permet à l'homme de supporter la maladie, mais quand le moral est abattu, qui le relèvera ? Qui le relèvera ?» Mais le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. On passe au point suivant, symptômes, réactions. Symptômes. Pris dans une spirale qui amplifie, la peur, la crainte, le doute, le vide, l'échec sont accentués par les circonstances, les personnes, les événements, les paroles. Rappelez-vous celle de Jézabel, une phrase. Mais rappelez-vous de cette phrase qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Bon, bien sûr, vous avez pris le dessus. Elle est restée là. Là, oui, mais là. D'ailleurs, vous n'en avez pas mangé. Parce qu'il y a des conséquences somatiques. On ne reste pas indifférent à ce qui se passe. Surtout si nous sommes dans un état de fragilité physique, psychique, spirituelle. Vous savez que l'ennemi, lui, attaque toujours les brebis qui sont fatiguées. Et c'est pour cela que on en arrive à des situations de troubles du sommeil, de cauchemars, d'ulcères, troubles digestifs. Je passe. Je ne voudrais pas vous donner une indigestion ce matin, mais on en a fait déjà une liste hier. On pourrait recommencer. J'aimerais souligner les traces psychiques, le trac, l'anxiété, le trouble du comportement, trouble d'humeur, caractère, phobie, faiblesse, fragilité, qui expose la personne qui est souffrante à devenir une proie facile face au danger. Et là, j'insiste, ceux qui traversent l'angoisse deviennent des proies faciles. D'où l'importance de ne pas agir en manipulateur, mais apporter vraiment la pensée du Seigneur. Je ne parle pas de l'alcoolisme, la toxicomanie, parce que là aussi les déviances ne manquent pas lorsqu'il y a des problèmes. Mais il y a ce processus d'inhibition, c'est-à-dire de dépendance, où on accumule des interdictions, je ne peux pas, je n'ai pas le droit, on se culpabilise, mais en plus, on s'impose des principes, perte de liberté. Ça veut dire esclave de soi, de ses pensées. Alors vous comprendrez bien que quand quelqu'un arrive avec une morale à 4 sous, ça ne fait que culpabiliser. Je sais que mon Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. C'est là d'ailleurs qu'on reconnaît les disciples. La vérité vous affranchira. Parce que si le Fils vous affranchit, vous êtes vraiment libre. Et vous savez la réponse des Juifs à ce moment-là ? Attends, Seigneur, on est de la Pentecôte ? Non, pardon. On est fils d'Abraham. Ils se cachent derrière leurs références religieuses. Vous n'avez pas remarqué ? Ce n'est pas le fait de venir aux réunions, de porter un nom. C'est le fait d'être libre qui fait de nous des vainqueurs. Seigneur, je veux rentrer sur le sentier de la victoire. Je veux rentrer dans cette dimension parce que je sens que je glisse, je fuis. Quel privilège nous avons, nous les enfants de Dieu. Dans Romains 8, 26, il nous est dit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Alors là, on est prêt à dire « Alléluia !» Car nous ne savons pas où nous ne savons plus ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ces moments où on n'a plus la force, ou même il y a comme un refus, et on ne sait plus. Vous vous rendez compte? Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, oui, ça peut arriver. C'est là que j'ai besoin de mes sœurs et de mes frères. Oui, ça peut arriver. Et le Saint-Esprit continue, et il dit, alors par des soupirs inexprimables, et d'autres versions disent, par des soupirs de gémissement. C'est-à-dire, c'est comme si le Saint-Esprit pleurait à notre place. Ô Seigneur, dis-moi que tu me comprends par ton esprit. Dis-moi que tu me comprends. Ça, c'est le secret fort de l'aide et du soutien auprès de ceux qui traversent la difficulté. Cette compassion qui a amené Jésus à pleurer sur Jérusalem. Cette compassion qui a fait qu'un jour un Samaritain, en voyant le malheureux, qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris soin. Non. Premièrement, il a été ému de compassion. Et ça se voit. Premièrement, il y a eu quelque chose qui s'est passé en lui avant qu'il n'exerce la miséricorde. Il a été ému de compassion. Vous savez, tant qu'on n'est pas ému de compassion, en tant qu'enfant de Dieu, notre miséricorde ne sera pas aussi bonne que ceux qui travaillent dans notre monde. Mais quelle force, quand nous sommes émus de compassion, de transmettre toute la douceur du soin que le Samaritain dispensait à ce malheureux. C'est pour cela que le psaume 6, verset 9 dit « Dieu entend la voix de mes larmes. » Seigneur a l'interprétation, mes sœurs et mes frères. Parfois, nous, on n'a pas l'interprétation des parler en langue. Vous savez que celui qui parle en langue parle à Dieu. Vous le saviez, ça. Je ne vais pas vous faire une étude biblique, ce n'est pas le sujet. Mais je pense que l'interprétation d'un parler en langue peut, et ça serait tout à fait normal, être une prière, une supplication, une louange. Et parfois, le Saint-Esprit, dans une interprétation de souffrance, de prière, est en train d'exprimer notre propre souffrance. Il suffit de lire le livre des psaumes pour le comprendre. Que de fois, ces psaumes nous ont fait du bien. Quand la souffrance brise nos révoltes, il y a encore à nouveau un chemin. Alors je ne parle pas du glissement, du désespoir. Celui de nous jeter dans les bras du Père et lui dire, Seigneur, j'en peux plus. Viens, j'ai besoin de toi. Que le Seigneur nous aide. Près de 20% des Français se soignent pour les angoisses. 30% des ordonnances, il y a des spécialistes en pharmacie au milieu de nous, anxiolytiques. Plus de 100 millions de boîtes vendues dans notre pays. Et j'ai peur que mes statistiques soient vieilles, c'est-à-dire de quelques mois. Nous en consommons 5 fois plus que les Américains, 3 fois plus que les Allemands. Et nous, quand la Sécu ne nous rembourse pas, nous, on est les champions en France. 16 litres d'alcool pur par adulte et par an. Alors si je dis cela, ce n'est pas pour nous culpabiliser, c'est parce qu'il y a une fuite. On cherche le moyen. Et le Seigneur en a un moyen. S'il y a la crainte, s'il y a la crainte de l'autre, s'il y a la blessure, s'il y a l'échec, la crainte de manquer. Et quand je dis cela, crainte, on pourrait penser que la souffrance, la dépression sur laquelle on va s'arrêter cet après-midi, ça ne concerne que nous adultes. On se rend compte que la dépression et l'angoisse n'est pas négligeable parmi nos enfants, nos adolescents et le nombre de drames est en nette progression, malheureusement, dans notre pays, parmi nos adolescents. Seigneur, nous avons besoin de toi. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie ? Alors, ces interrogations et ces constats m'amènent à, tout d'abord, quelques conseils pratiques. Vous voulez bien quelques conseils pratiques ? Monsieur Gault m'a dit « Ne regarde pas la pendule ». Je ne vais pas vous dire que j'ai fait l'introduction. Prendre le temps de travailler sur des choses simples, mais efficaces. Quelqu'un a dit, je ne vous dirai pas qui, mais je suis content. Si tu fais ce qui est bon et nécessaire pour ton prochain, c'est bien. Mais si tu t'attaches à faire mieux que bien, alors ce sera un bienfait. Souvent, nous nous contentons parce qu'on a fait ce qui était nécessaire. Oui, ben écoute, avec ce que j'ai fait pour lui, hein, on va pas passer tout notre temps quand même. Hein. Je fais ce qui est bien. Mais faire mieux, c'est-à-dire, rappelez-vous hier, ce n'est pas du pain, c'est un gâteau que Dieu a fait à Élie. C'est-à-dire, ce n'est pas une réponse, c'est la qualité de la réponse qui est importante. Pour travailler dans un secteur malade, désorienté, atteint de maladie d'Alzheimer, il y a toute une réflexion sur ce qu'on appelle l'humanitude. Rien à voir avec la bravitude. C'est rompre les attitudes mécaniques et s'obliger à prodiguer un ensemble de soins et avoir un certain nombre d'attitudes, de comportements qui aident le souffrant, le rassurent et le calment. C'est-à-dire, c'est le plus. C'est pas prendre soin, c'est prendre soin avec une qualité en plus. Et ça s'appelle l'humanitude. Et maintenant, c'est devenu une obligation dans le cadre des agréments pour les maisons de retraite. Je ne vais pas vous parler de cela, mais Jésus appliquait l'humanitude. Quand il arrive sur la mer, alors que les disciples sont en train de ramer, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'est arrivé de ramer. Quand on rame, on a l'impression qu'on n'avance pas. Oui ? Jésus arrive. Quand même, les disciples auraient pu me dire de venir avec eux. C'est ce que Jésus aurait pu dire. Il leur a dit « Allez, et eux, on y va ». Jésus aurait pu leur dire, vous savez, sans moi vous pouvez rien faire. Il l'a dit, il faut que je sois dans votre barque. Mais le Seigneur ne s'impose pas. Et quand la tempête arrive, Jésus aurait pu dire, tu vois, je te l'avais dit. Hein ? Mais quand il arrive sur l'eau, quand il arrive sur la mer de ma tempête, il me dit, rassurez-vous. C'est moi. N'ayez pas peur. Quel message. Ça, c'est le plus. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et sans m'attarder sur le détail, j'aimerais vous parler des trois piliers de l'humanitude. C'est-à-dire le plus dans notre service à l'égard de l'autre. Cherchez pas la référence biblique, hein. C'est pas là. Ces conseils pratiques. Trois piliers. Le premier pilier, c'est le regard. Le deuxième pilier, c'est la parole. Et le troisième pilier, c'est le toucher. Ah, cette magnitude n'est peut-être pas dans la Bible, mais ça, ça me dit quelque chose. Le regard. Le regard. N'avez-vous pas vu Pierre ? J'ai l'impression que j'y suis. Lorsqu'il arrive et qu'il monte au temple avec Jean, et assis à la porte, appelé la belle, il voit un boiteux. Qu'est-ce qui se passe ? L'ayant regardé, il le regardait attentivement. Les regards se croisent. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur cette notion du regard. N'avez-vous pas remarqué le regard de la maman qui se porte sur le nourrisson, là, couché sur la table allongée? Quelle qualité du regard! Elle ne le regarde pas en disant « Ah, t'as encore fait pipi !» Tu ne fais que des bêtises. Ah, tu vas encore me parler de tes problèmes. Allez, assieds-toi. J'ai 10 minutes. Mais regardez ce regard. La maman, quelle tendresse, quel amour, quelle fierté, quelle protection, quelle notion d'appartenance. Tu es mon fils, comme Jésus l'a entendu de son père. Tu es mon fils, je t'aime. Jésus l'a entendu. Ton ami a besoin de ce regard. Il a besoin de ce regard. On dit que c'est un regard, dans le cadre de l'humanité, qui doit être axial, c'est-à-dire de face. À la hauteur, c'est-à-dire certains vont se dire, mais pourquoi il est descendu? Regardez Jésus, quand les disciples se disputent pour savoir qui est le plus grand, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse au niveau de l'enfant. Se mettre à la hauteur pour que notre regard ne passe pas au-dessus. Et suffisamment long pour attirer le regard de l'autre. C'est-à-dire un regard qui attire le regard de l'autre pour qu'il se passe quelque chose. Vous n'avez pas vu des amoureux qui se regardent? Bon, je ferme la parenthèse. Parce que sinon, on aura un regard fuyant. Vous voulez que je vous parle du regard fuyant? Le sacrificateur qui passe. Vous savez l'histoire, là, vous connaissez cette histoire? J'ai lu ça quelque part. Et le sacrificateur qui passe, puis il voit un malheureux qui est tombé le long du chemin. Vous connaissez cette histoire? Oui. Et puis, il le regarde. C'est écrit, l'ayant vu. Il le regarde. Il l'a cherché, celui-là, encore. Ça, c'est moi qui le dis. Le malheureux était couché à demi-mort, nous dit l'Écriture. Oui. Le sacrificateur, il n'avait pas le droit de toucher aux morts. Vous voyez qu'il se trompe de côté. Il était à demi. Non, je dis ça parce que parfois on a de ces raisonnements et ces principes bibliques qui nous amènent à des « Oh, malheureux, d'ici je tombe de mes côtés, je vais avoir le châtiment de Dieu. Oh, je passe outre. » Le regard hautain qui passe au-dessus, d'en haut, ou le regard de travers. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous regardait de travers? Ah, Seigneur. Il y avait le Lévite aussi. Il ne faut pas que j'oublie le Lévite. Je ne sais pas, c'était peut-être un ancien qui passait, ou c'est peut-être... Pardon les frères, mais ce n'est pas vous. Hein. Je vous ai bien regardé, ce n'est pas vous. Hein. Oh. Toi, tu serais tombé. Un mercredi, ça allait. Mais le mardi, j'ai une réunion de prière. Mon pauvre, c'est... Non. Or, on sait qu'il faut prendre le temps pour aider. Jésus prenait le temps même du regard. Que son nom soit béni. Mais un Samaritain qui passait par là. Quand le Seigneur sort ça à ses disciples, le Samaritain était considéré comme l'ennemi. C'est comme si le Seigneur nous disait à nous, Église de la Pentecôte, ce matin, mais un... Non, je ne vais pas prendre l'exemple. Lui, il voit. Et là, quelque chose se passe, ému de compassion. Arrêtons-nous à l'endroit où est tombé cet homme. Réfléchissons sur notre regard qui se pose sur les autres. Sommes-nous gênés de regarder la souffrance? Sommes-nous gênés de regarder ceux qui souffrent? Certainement parce que ceux qui souffrent n'arrivent pas à croiser le regard de ceux qui peuvent les aider. Ils ne se posent pas assez longtemps sur leur souffrance et sur leur misère. L'humanitude nous dit encore que 60% des malades atteints de la maladie d'Alzheimer voient en tunnel, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas sur les côtés. Ça veut dire que si je dois aider quelqu'un, je le regarde de face. Je t'aime, mon frère. Quand vous regardez quelqu'un de face, que le regard se croise, il se passe quelque chose. Quand vous devez mettre des choses en ordre, si c'est le regard fuyant, ça ne durera pas. Mais si c'est de face, je t'ai blessé, mon frère. Il y a quelque chose qui se passe. Quelle richesse quand dans un couple, le regard de l'époux et de l'épouse se croise. Quelle richesse quand dans une famille, le regard du papa et de son fils, de son ado, se croise. Et suffisamment longtemps pour que le message passe. Ce sont des choses pratiques que je partage avec vous ce matin. Un jour, j'étais à la fenêtre, je ne voudrais pas parler de moi, mais j'étais à la fenêtre, ayant connu une jeunesse assez, pour ne pas dire très difficile. J'ai souvenir des moments difficiles que je traversais en tant qu'ado, jeune. Un jour, je vois un malheureux passer, et de la fenêtre, je le regardais. J'essayais de lire sa souffrance. Et d'un seul coup, il s'est tourné vers moi et m'a regardé. Nos regards se sont croisés. Et lorsque nos regards se sont croisés, je lui ai dit, « T'as faim ?» Je lui ai pas dit, « Jésus t'aime. » Je lui ai dit, « T'as faim. » Parce que ça, ils comprennent. Parce que ça, Élie, il a compris. Quand l'ange est venu et lui parlait de pain, d'eau fraîche, de repos, il a compris. « T'as faim ?» Et je lui ai dit, « Viens. » C'était l'heure de midi, il est venu à la maison, on a partagé, il y avait de la purée, je m'en souviens. Il y avait du steak, je m'en souviens, je lui ai donné le mien. Et on a coupé celui de mon épouse en deux, on se l'est partagé. Et pendant qu'il mangeait, ça se voyait, j'avais ramené mon petit évangile de Jean, et je lui disais, « Jésus t'aime. » Oui, oui, oui. Je sentais que c'était pas le moment, mais je lui ai quand même dit, « Faut lire cet évangile. » Oui, oui, oui. Mais sa joie, c'était que le regard s'était croisé et que je répondais à son besoin. Le texte nous dit, « L'homme dont le regard, proverbe, est bienveillant, sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Il donne de lui aux pauvres. Et il n'en tirera pas une perte, mais une bénédiction. Et il est parti, et comme à chaque fois que l'on accueillait quelqu'un à la maison, un malheureux, un vagabond, un jeune qui était en pleine... À chaque fois, on regardait s'il y avait toujours l'appareil photo, on regardait s'il y a tout... Parce que plus d'une fois, on s'est fait... Eh oui. Puis on se dit toujours, est-ce que c'est utile ? Il y a quelques mois, lors d'une rencontre, quelqu'un vient me voir.
— Bonjour, Monsieur Roussel.
— Bonjour. Vous me connaissez ? — Non. — Ah, pourtant, j'ai mangé chez vous. Je le saurais. Vous m'avez donné votre beefsteak. Et vous avez partagé celui de votre femme. J'ai lu l'Évangile. Le Seigneur a bouleversé mon cœur. Aujourd'hui, je suis pasteur. L'homme dont le regard est bienveillant. Tu as un message à transmettre par ton regard. Tu as des choses à dire par ton regard. Qui veut dire, je comprends ta souffrance. Moi, j'ai rien donné si ce n'est que de la purée. Mais lui, il fait le miracle. Que son nom soit béni. Deuxième élément pratique, la parole. Un sage a dit que tes mots soient des fenêtres, sinon ils deviendront des murs. Que tes mots, tes paroles deviennent des ouvertures. On a parfois ces langages qui bloquent et qui ferment. Vous savez, c'est ces conversations qui commencent par « non ». Vous savez, vous parlez à quelqu'un, la première chose que vous dites « non ». Ça, vous savez, tout de suite, la porte, elle est fermée, là. Mais être capable de dire « je comprends ta souffrance. Je comprends que tu te révoltes. Je comprends que tu sois en colère. » Oui, je le comprends. Ça ne veut pas dire que je l'approuve. Mais c'est ouvrir la porte, c'est ouvrir la fenêtre. Parce qu'il se culpabilise déjà. Vous savez, c'est dans les difficultés, ce n'est pas le mal que les autres nous ont fait qui nous blesse le plus. C'est parfois notre réaction. Parce qu'on se dit, on n'aurait jamais dû réagir comme ça. Mais ça reste au fond de soi. Mais ça reste comme un échec. Apprends-moi, Seigneur, à ce que mes paroles soient des portes qui s'ouvrent. La parole doit être précédée de l'écoute, je ne vais pas m'arrêter sur ce point. Vous savez, quand les religieux, on ne va pas mettre le doigt sur les religieux, on en fait partie. Hein. Qu'est-ce que je viens de dire ? On fait partie du monde religieux. Et le monde religieux, ce n'est pas forcément le monde né de nouveau. Et ce n'est pas forcément le monde régénéré qui entretient les sentiments qui sont en Christ. Parce qu'on peut être né de nouveau et avoir perdu cette fibre. C'est ça que je veux dire. Et regardez ces religieux qui viennent et qui ont trouvé un texte biblique. D'ailleurs, en passage, je n'ai pas encore ouvert la Bible. Mais heureusement, les textes sont là. Merci, Jean. Moïse, selon la loi, dit « il faut la lapider, une de moins ». Merci au Seigneur pour ceux qui ont à cœur le travail parmi les prostituées. Travail qui n'est pas facile, là aussi. Nécessité du regard plein de compassion. Moïse, selon la loi, dit qu'il faut lapider cette femme. On l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont pas surpris l'homme. Et Jésus dit, vous y allez sur le jugement, la condamnation, alors que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Est-ce que ma parole est une pierre ou un baume ? Oui, mais c'est une... Stop ! C'est une femme. Qui a une vie qui a besoin d'être changée ? Mais c'est une femme. C'est un enfant, c'est un homme. Il y a un être humain. Dieu aime le pécheur. Arrête de jeter la pierre au pécheur. Il ne veut pas sa mort. Il veut sa repentance. Vous me suivez là ? Mais parfois, nous visons la personne. Parce que là, c'est la personne qui était visée. Oui, je sais. Et le Seigneur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Vous savez ce qui s'est passé ? Accusés par leur conscience, c'est-à-dire que loin de régler leurs problèmes, le Seigneur renvoie l'ascenseur, et là c'est leur conscience qui leur reproche. Et l'Écriture nous dit qu'ils sont partis depuis les plus vieux. À croire que plus on vieillit, plus on accumule les ressentiments si on n'a pas mis notre vie en ordre avec le Seigneur. Il y a des chrétiens qui ont le sous-sol, le deuxième sous-sol et le troisième sous-sol, plein de ressentiments. On en parlera de cet après-midi. Comment réparer l'ascenseur ? Mais il y a des doses. Et si vous leur faites une allusion ou si avec gentillesse vous leur montrez qu'il y a un problème, alors c'est l'agressivité. Non, un chrétien agressif. Non. Non, je t'aime, mon frère. Seigneur, aide-moi. Lorsque je fais des formations avec des anciens, avec des pasteurs, avec des jeunes, j'aime visualiser, et je leur parle des cinq couleurs. Autant dans les paroles que dans les actions, mais surtout dans les paroles. Voilà, cinq couleurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Bon, la première bulle, elle est jaune. Elle nous parle de la gloire de Dieu. La deuxième bulle, elle est rouge. Elle nous parle de l'œuvre de Christ. Le sang qui a coulé. La troisième bulle, elle est verte. Elle nous parle des promesses du Seigneur.
Oui, c'est gentil ce que tu nous dis.
La quatrième bulle, bleue, l'obéissance, la loi, les principes. Et enfin, la dernière, je dirais qu'elle est sombre. Je vais volontairement dire sombre, parce que quand je ne fais pas attention, je dis parce que le symbole du péché, c'est le noir. Et certains me regardent avec un air sombre. Je vous rassure, mes sœurs, mes frères, que j'ai du respect pour chacun. C'est pour ça que je dis couleur sombre. Quand tu témoignes, quand tu parles de l'Évangile, quand tu soulignes ta Bible, quand tu partages la parole de Dieu, alors tu peux en mettre du jaune et parler de la gloire de Dieu. Quand tu parles, tu témoignes, tu apportes un conseil, tu peux parler du rouge, ce que Christ a fait. Tu peux parler du vert, mais quand tu commences à parler des principes de l'obéissance, avec un, ça suffira. Et si tu dois parler du péché, c'est nécessaire, avec un, ça suffira. C'est bien de dire que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, ça fait un. Mais le don gratuit de Dieu, c'est le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Là, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du vert. Limite les principes. Tu dois pas. Il faut plus. Ne culpabilise plus. Oui, mais les fautes, oui, mais tu sais, oui, mais. Élève Christ. Mets du jaune. Mets du rouge. Que le Seigneur vous aide. Puis troisième chose pratique, le toucher. Ah, peut-être qu'il y avait le texte de Proverbe 12, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne nouvelle le réjouit. Le toucher. Vous savez que quand il y a un bébé, la maman le touche, il y a le contact. Le toucher, le fondement du soin, le samaritain, il a touché le malheureux, il lui a pansé les plaies. La va-vite ne se conjugue pas avec la douceur. On a besoin du contact. On parle aujourd'hui de plus en plus du toucher tendresse, parce que ce n'est pas simplement le toucher, mais c'est le toucher tendresse. Parce que souvent, on a ce qu'on appelle la...
Vous pouvez venir, frère, deux secondes.
Oui. Il me dit « moi ». Donnez la main. Ça, c'est déjà bien. Hein ? Mais si je lui prends le poignet en pince, ça ne veut pas dire la même chose. Peut-être, je lui dis « tiens, je te prends la main », mais lui, il a le sentiment, vous savez, à l'école... La prise en pince de l'épaule, du bras, du poignet, la prise en pince, ça suppose beaucoup de choses. Moi, quand le professeur me prenait le bras en pince, je n'avais pas besoin qu'il m'explique. Mais quand l'amoureux commence à prendre la main... Non, mais bon. Pardonnez-moi, c'est volontaire que je vous fais sourire, parce qu'on a besoin d'être interpellé. Ton frère, tu n'as pas besoin de le ramener comme si tu avais besoin de le redresser. Regarde-le de face. Donne-lui une parole ou que ton regard soit la parole. Puis prends-lui la main. Prends-lui l'épaule. Tout simplement. Ce contact que le Seigneur utilisait. Il touchait les enfants. Cette notion d'imposition des mains, D'ailleurs, je suis frappé parfois parce que certains utilisent l'imposition des mains pour chasser. Moi, je pense que l'imposition des mains, elle est là pour communiquer. Il y a quelque chose à transmettre. Que le Seigneur nous aide à communiquer l'affection. Et je termine par les promesses dans le cadre du plan. Nos bonnes intentions, notre volonté ne suffisent pas. Il nous faut la grâce et le secours du Seigneur. Dans les moments d'angoisse, il est dit qu'un ange est apparu et qu'il a fortifié le Seigneur. Nous avons besoin de prendre des victoires sur la crainte et la peur. Le peuple de Dieu en a. Quand vous pensez à l'époque de Gédéon, quand il y avait les Madianites, qui regardaient avec leurs jumelles tous les ans là, pour dire « Tiens, c'est le moment d'aller piquer leur récolte ». Non, ils n'avaient pas de jumelles. N'empêche qu'ils voyaient. Dieu a dit « Je ne veux pas que vous pensiez que c'est grâce à vous. Je veux que vous puissiez témoigner que c'est ma main qui vous bénit. Vous êtes 32 000, c'est trop. Que celui qui a peur et manque de courage rentre chez lui. » J'allais dire « Je vous le donne en 1 000. » Non. En 22. Sur 32 000, 22 000 sont rentrés à la maison. Les deux tiers avaient le poids de la crainte et de la peur. Il y a parfois de ces situations, et de la même manière que je disais hier soir, confiez vos nerfs au Seigneur. Je vous dis ce matin, confiez vos craintes et vos peurs. Ne vous culpabilisez pas, parce que la crainte et la peur est l'amorce de l'angoisse. 22 000 hommes s'en retournèrent. Vous avez un psaume, le psaume 107. Je vous demanderai de le lire tranquillement ce soir, ou demain matin, ou cette nuit, ou les deux. Trois. Dans ce psaume, le Seigneur parle du triomphe des rachetés. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et il s'arrête sur quatre points. Il parle de la solitude du peuple. Puis à un moment donné, ils verbalisent, ils expriment leur souffrance, ils crient à l'Éternel, et l'Écriture nous dit, et il les délivra de leur angoisse. Et il les amena sur un lieu paisible. Solitude. Le deuxième texte dans le même chapitre, même psaume, ils étaient dans les ténèbres, captifs dans leur misère, et en pleine révolte, pleine contestation. Vous ne savez pas ce que c'est ça. Rouméguer, comme disent les Tarnais. Ils crièrent, ils verbalisèrent, ils dirent. Vous allez voir cet après-midi l'importance de dire les choses. Et l'Éternel les délivra deuxième fois de leur angoisse. Et le Seigneur les arracha des ténèbres de la mort. Troisième texte. Face à la culpabilité, ils étaient mais écrasé par un sentiment de culpabilité qui est la maladie la plus terrible chez les chrétiens. Et l'Écriture nous dit, alors qu'ils confessent, qu'ils verbalisent leur faute, le Seigneur nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Et dans le cas de la tempête, il est dit, il a rompu les liens. Il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Seigneur, je sens qu'il y a des portes fermées. Je sens qu'il y a des liens qui me tiennent. Ce n'est pas une question de possession, mais de quelque chose qui me rend prisonnier et qui empêche que je sois libre. Seigneur, tu me fais cette promesse. Tu me fais cette promesse. Et puis le troisième élément, c'est la fuite. La fuite. Fuite. Dans l'oubli, à l'intérieur de sa propre vie, fuite dans les drogues, fuite dans l'alcool. Il crie à l'Éternel, il les délivre de leur angoisse, et le Seigneur les calme de la tempête. Et l'Écriture nous dit, il les conduisit au port désiré. Alors j'aimerais terminer par deux images. Si le vent souffle fort, si la mer se déchaîne, il y a un cantique qui le dit, et il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit « passons de l'autre bord ». Il est dit un jour que la tempête était si terrible que les flots passaient par-dessus la barque. Je me suis trouvé un jour en Polynésie, en pleine mer, avec des flots qui passaient par-dessus le bateau. Et j'étais avec un ami, Raymond, qui était tellement malade qu'il était couché, il dormait. Je ne sais pas comment il faisait, lui. Et le capitaine me dit, tout se déchire au-dessus, c'est bon pour rassurer, je monte sur le toit pour réparer. Prends la barre. Il me dit, la prends pas de face, la vague. La prends pas en côté, on va se faire rouler. Prends-la en biais. Je voyais rien. Ni la vague, ni le capitaine. Non, mais j'ai vécu. Non, je peux vous en parler, mais il faut que ça fait du bien quand on a les pieds sur terre après. Et vous savez où était Jésus? Il dormait à l'arrière, c'est-à-dire la partie la plus basse, sur le coussin. Et l'Écriture nous dit que la barque se remplissait. Vous avez essayé de vous endormir dans une baignoire avec de l'eau froide? Moi, j'aime bien me détendre, mais quand l'eau devient froide... Hein? C'est vrai, les disciples ont dit, « Maître, mais tu t'inquiètes pas, mais tu réalises pas, c'est pas possible. Nous périssons !» Mais qui le premier était dans le bain? Qui le premier était couché dans la conséquence de la tempête? Qui le premier était dans la sauce, pardonnez-moi, de nos problèmes? C'est Jésus. Dans votre tempête, il comprend notre misère. Il a souffert comme nous. Il est là. Il est là. Et puis, il va calmer, silence, tais-toi, dit-il, à la tempête. Hein? Parfois, nous, on se trompe, c'est aux gens qui souffrent qu'on dit silence, tais-toi, arrête de te plaindre. Mais le Seigneur, lui, c'est à la tempête qu'il le dit. Hein? Puis le deuxième exemple, c'est que Pierre, qui écoute la réunion la plus extraordinaire, mais il a travaillé toute la nuit sans rien prendre, vous connaissez l'histoire, et puis il est là, dans la foule, le Seigneur va prêcher, ça va nous faire du bien, parce que je n'ai pas trop le moral. Puis le Seigneur lui dit, allez, prête-moi ta barque, il s'assoit dans la barque, le Seigneur est là. Donc il est pas dans l'église, il est plutôt sur le côté. Ah, comme vous. Et le Seigneur leur parle. Puis quand il a fini, une belle prédication certainement, hein, il est dit... Ah non, il va me dire pas encore moi. Hein. Jette ton filet. Jette ton filet. Or là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. Mais Seigneur, j'ai connu l'échec. J'ai travaillé toute la nuit, j'ai rien pris. C'est vide. Ma vie est vide. Il y a un vide là-dedans. Oui, je souris aux yeux des frères et des sœurs. Il y a un vide. Ma barque est vide. Jette ton filet. Je suis là. Vous connaissez l'histoire. Et quand ils reviennent, ce n'est pas une barque, c'est deux barques, tellement il y avait l'abondance. Pierre revient, nous on aurait dit, « Ah, Seigneur, tu es formidable. On va créer une société. Pierre et Jésus, la pêche miraculeuse. » C'est Bobonne qui va être contente quand on va ramener les bateaux au bord. Non, il ne l'appelait pas Bobonne. Hein. Et vous savez ce que fait Pierre ? Retire-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. Si tu as été capable de voir le banc de poissons que moi j'ai pas vu, tu es capable de voir au fond de mon cœur ce qui se passe. Seigneur, sais ce qui se passe dans ton cœur ce matin. Et je voudrais qu'alors que nous allons prendre ce pain et ce vin, nous laissions le regard du Seigneur se poser. Il sait ce qui se passe. C'est le moment de lui dire. C'est le moment de lui dire, Seigneur, remplis mon cœur de ta présence. Je veux verbaliser ma souffrance, te le dire, je souffre, Seigneur. Nous allons ensemble nous lever. Je pense que les frères qui distribuent vont s'approcher. Mais j'aimerais que vous ne preniez pas la Sainte-Seine ce matin, mais vous puissiez communier avec Dieu. J'aimerais que vous puissiez vous approcher au travers de ce moment et saisir la plénitude de la victoire et de la grâce du Seigneur. Il est puissant, il est vivant, il est victorieux. Il peut dire à la mer, silence, au vent, tais-toi. Il peut briser les liens, rompre les verrous de fer, briser les portes. Il t'envoie une parole ce matin. Il envoya une parole. Et il les guérit. Et c'est au travers de ce rond rouge, de cette couleur du sacrifice, que le Seigneur s'adresse à ton cœur. J'ai pu t'interpeller. Mais celui qui fait les miracles, c'est lui. C'est lui. Et c'est ce matin qu'il veut le faire. C'est ce matin. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à laisser le regard du Seigneur se poser sur vous. Il prend le temps de vous regarder et ce matin il te dit, tu es mon enfant bien-aimé que j'aime, tu es mon enfant. Malgré tes fautes, tes erreurs, tu es mon enfant. Ce matin je viens à ton secours, ce matin je veux t'aider. Oh, tu te sens fragile, jeune, mais le Seigneur t'aime. Tu te sens accablé, tu dis, il n'y a plus d'espoir, et le Seigneur t'aime. Il te regarde ce matin, il pose ses regards. Peut-être même qu'il pleure en te regardant, parce qu'il est ému de compassion. Et Seigneur, je voudrais te dire ce matin, pour ma propre vie, non seulement pose ton regard sur ma vie, mais apprends-moi à avoir ce même regard sur la vie de ceux qui m'entourent, pour que je puisse leur témoigner de ton amour, afin que la communion ne soit pas simplement avec toi, Seigneur, mais que la communion soit aussi avec mes sœurs et mes frères. Car c'est ça la Sainte Cène. C'est le triomphe de la relation avec Dieu. C'est la victoire de la relation avec les autres. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction comme une rosée qui descend de l'Hermon jusqu'à sur Sion. On sait que géographiquement il y a 150 kilomètres. Mais le Seigneur veut faire ce miracle de la rosée qui tombe sur ta vie, là où tu es. Que le Seigneur te bénisse maintenant. Alléluia. Alléluia.